Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, le paddock RMC va débriefer le Grand Prix de Catalogne, de Barcelone. Et franchement, on s'imaginait pas débriefer une victoire de Lewis Hamilton avec la Scuderia Ferrari à 41 ans. Hamilton s'offre son premier succès en rouge. C'est une victoire qui relance peut-être tout. Est-ce que Ferrari est en fin de retour? Est-ce qu'Hamilton peut s'immiscer dans cette lutte pour un 8e titre mondial? On est très loin de tout ça, mais malgré tout, on va être obligé d'ouvrir le débat. Surtout avec l'abandon de Kimi Antonelli lors de ce Grand Prix de Barcelone. Ce qui est sûr, c'est que ce Grand Prix de Catalogne, il va compter. Beaucoup plus qu'une simple ligne dans les statistiques. On va vous raconter ce qui s'est passé à Barcelone, l'émotion de Lewis Hamilton, les réactions du paddock aussi après cette victoire. Et on va débriefer tout ça avec les ingénieurs du paddock RMC. C'est notre team principal. Et là, Jean-Luc Roy from Miami. Salut mon Jean-Luc.
Toujours là. Salut mon Nico et bonjour à tous.
Avec toi nos ingés, Seb Erson et Nicolas Opé. Salut les gars.
Salut.
Bonjour à tous.
Salut Young Boys.
On va limite se faire un podcast 100% Hamilton. Là on est obligé les amis, c'est quand même un truc de fou.
Quelle course.
On va se plonger dedans tout de suite Seb. C'est parti pour ce débrief du Grand Prix de Barcelone. Allez, je vous donne les résultats. On l'a dit, victoire de Lewis Hamilton, la 106e en Formule 1, la première depuis 2 ans, depuis Spa en 2024 en Belgique et surtout la première en rouge avec la Scuderia Ferrari. Il domine George Russell qui partait pourtant en pole position. 19 secondes, plus de 19 secondes d'avance pour Hamilton à la fin de la course et c'est Lando Norris qui complète le podium. 3 Britanniques sur le podium. La Grande-Bretagne était en force. À Barcelone, Max Verstappen, 5e, Oscar Piastri. Max Verstappen 4e, pardon, Oscar Piastri 5e, Isaac Hadjar termine à la 6e place et prend 8 points, Pierre Gasly une nouvelle fois très bon 7e, Liam Lawson 8e, Arvid Lindblad 9e et Franco Colapinto arrache le point de la 10e place. Esteban Ocon termine 13e. Week-end catastrophique pour Charles Leclerc. On va bien évidemment revenir sur ces trajectoires entre Hamilton et Leclerc qui sont complètement en train de s'inverser et donc je vous le disais, abandon de Kimi Antonelli. Voilà pour les gros faits d'armes de ce Grand Prix de Catalogne. Au championnat du monde, Kimi Antonelli a toujours 41 points d'avance sur Lewis Hamilton, mais ça revient avec ce zéro pointé de Antonelli. George Russell est 3e, 106 points. Il a repris 18 points à son coéquipier alors qu'il restait sur 2 Grands Prix sans marquer. Ça lui a fait du bien mentalement. Charles Leclerc est 4e. Pierre Gasly est 8e, premier français avec 7 points d'avance sur Isaac Hadjar, 34 points. Pour Hadjar, voilà pour le classement des pilotes et au niveau des constructeurs, Mercedes à 262 points, 190 unités pour la Scuderia Ferrari, à 72 points de retard pour Ferrari. McLaren est 3e avec 141 points. Red Bull, 89 points et Alpine qui se détache à la 5e place de ce classement des constructeurs. Voilà, vous avez toutes les infos après ce Grand Prix de Barcelone. Mais on va revenir tout de suite les amis sur ce qui s'est passé avec Lewis Hamilton ce week-end. Il tournait un petit peu autour, mon Jean-Luc. Deuxième au Canada, deuxième à Monaco. On sentait que ça allait mieux. On sentait qu'il y avait de la confiance. On sentait que c'était le pilote Ferrari aussi qui était là dans le momentum. Celui qui avait le plus de chances d'aller chercher un truc avec la Scuderia parce que Leclerc est dans le dur. Et il a réussi à tout mettre en place pour aller chercher sa 106e victoire en F1.
Absolument, mon Nico. Écoute, un week-end remarquable pour Lewis. Comme tu dis, on le sentait venir quand même, puisqu'il n'avait plus la même attitude, plus le même regard, plus les mêmes mots depuis 2 Grands Prix, depuis le Canada, hein, où il s'était retrouvé, où la monoplace commençait vraiment à répondre à ce qu'il en attendait. Il l'avait dit très clairement. On a refait également son entourage. Il a maintenant autour de lui une équipe qui l'écoute, qui l'entend, qui fait ce qu'il souhaite. Et le résultat est là. Alors, effectivement, ça devait venir, ça pouvait venir avec ces 2 podiums consécutifs au Canada et à Monaco, donc sur des circuits quand même radicalement différents malgré tout. Et puis là, il a effectué vraiment le parcours parfait. La pole s'est passée très fin, hein, s'est passée vraiment tout près. Bon, George Russell était parvenu à conserver quelques millièmes d'avance, mais la démonstration de Lewis était impressionnante, d'autant plus que, et tu l'évoquais déjà, on va y revenir, que Charles Leclerc, malheureusement, lui est dans une période de trouble, hein, de perturbation, particulièrement depuis Monaco, et confirmé ici, 2 Grands Prix qu'il ne termine pas, avec des erreurs là, de sa part, qu'il a assume pleinement. Donc, Lewis se rappelle au bon souvenir. Et là aussi, on ne regrette rien de ce qu'on a dit l'an passé, parce que lui-même n'y était plus. Il l'avait dit, il avait demandé son remplacement. On ne peut pas faire plus pour un pilote de Formule 1. Là, cette année, il est en train d'aligner tout ce qu'il faut. Il est en train de revenir à la place, comme il le dit. Il a douté lui-même. Il y a quelques phrases qu'il a prononcées en disant « Je suis redevenu ce que j'étais ». Donc, ça veut dire qu'il ne l'était plus à un moment. Donc là, c'est formidable. Écoute, une première victoire en rouge, évidemment. Il y avait eu, bien sûr, cette petite sprint race en Chine l'an dernier, mais que lui-même relevait comme étant anecdotique, et nous aussi. Là, c'est une vraie victoire. En plus, avec une stratégie décalée qui a été bien servie par les événements, puisqu'il y a eu évidemment le safety car. On ne va pas entrer dans le détail maintenant. Mais écoute, c'est remarquable. 106e victoire, on ne sait plus quel mot utiliser. Une victoire en rouge, comme d'autres anciens champions du monde, il faut le rappeler, qui étaient arrivés chez Ferrari, qui avaient réussi à gagner en rouge. C'est le cas de Fernando Alonso, c'est le cas de Vettel. Enfin, ils ont été un certain nombre. Mais là, ça arrive enfin. Quelle va être la suite de la saison? Je pense qu'ils ont pleine confiance, Lewis. Et comme l'a dit d'ailleurs Russell, maintenant, il va falloir compter avec lui.
Ouais, clairement. Avant de se projeter sur la suite de la saison, Nico, Seb, qu'est-ce que ça vous a fait là au niveau émotion pure de voir Hamilton sur le podium, de voir Hamilton monter sur la première marche avec cette combinaison rouge.
Quel bonheur. Moi, j'étais tellement heureux. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'ai eu beaucoup d'émotions au moment du podium. Sur l'in-italien, on voit le visage de Hamilton. On a l'impression de voir un enfant qui est heureux. Et ça me donne encore la chair de poule là tout de suite. Et en fait, j'ai réalisé ce matin une chose. Je pense que je n'avais, à titre perso, jamais cicatrisé ce qui s'était passé en 2021 où un mec a retiré le titre. Je dis bien un mec, Michael Massey, et pas Max Verstappen. Et du coup, on a vu un athlète, Lewis Hamilton, douter, ne plus ressembler à un Lewis Hamilton. Et je me disais, est-ce qu'à cause de cette personne, on n'a pas perdu à tout jamais Hamilton? Et ce week-end, et depuis plusieurs semaines, mais encore plus depuis ce week-end, j'ai l'impression qu'on a retrouvé cet athlète qui fait rêver, cet athlète qui, son week-end, il le démarre moyennement. Le vendredi, c'est pas fou, le samedi matin c'est pas fou, lui-même le dit, et puis il monte, essai après saison, tour après tour, il va te faire des tours incroyables, et en fait je pense que comme beaucoup de personnes qui aiment Hamilton, en tout cas c'est mon cas, j'aime beaucoup Hamilton, j'avais besoin de voir, je crois, ce moment, un Hamilton qui revient en grâce, Hamilton qui montre qu'il est là, qu'il est de retour, et qu'est-ce que ça fait plaisir, qu'est-ce que ça fait du bien, et pour le championnat. Et hier, c'était assez incroyable, c'était l'unanimité avec cette joie. Tout le monde était content. Exactement. Ouais, ouais. Et même sur Internet, tu sais, j'ai de la chance de faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Et hier, je n'ai pas reçu un message d'une personne qui m'a dit « Oh non, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre ». Un peu cet esprit Coupe du Monde, quand les Bleus gagnent, tout le monde est d'accord. Là, tous les fans de Formule 1, on a vécu un moment où on peut tous se dire « Eh les gars, eh les filles, on l'a vécu ce moment, comme on aurait voulu voir gagner Schumacher chez Mercedes, comme on voulait voir gagner Hamilton chez Ferrari, on l'a vécu ce moment et oh là 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 là, quel pied, quel kiff, quel kiff !»
Ouais, c'est clair. Tiens Nico, juste avant de te passer la parole, on va écouter la première réaction d'Hamilton. C'est à sa radio, c'est bien évidemment avec nos confrères de Canal+, on va débriefer cette radio.
Le paddock RMC.
Let's go! For the Ferrari! Guys, thank you for those great pit stops as well. Sorry I have been talking, I'm so proud of you. Thank you.
And well done, Lewis. Well done. Finally, you got what you deserved.
Congratulations. Good job.
Woo! Ciao, ragazzi. Grazie a tutti. I'm Maranello. Thank you so much. You helped me achieve this dream, and I can't thank you enough. Thank you for everyone pushing so hard back at home. I'm so proud of you. And to my family, I love you. And to the fans, thank you for continuing to remind me who I am. Couldn't have done this without you. Grazie.
Ouais, c'est ce que disait Jean-Luc là. Merci à tout le monde de me rappeler qui j'étais. Il y avait cette revanche contre lui-même, Nico. On entend qu'il remercie Maranello. Il dit merci de m'avoir permis de vivre ce rêve-là, de gagner avec la Scuderia. C'est vrai que pour lui, là où ça rend le moment encore plus grand, cette 106e victoire d'Hamilton et la première avec Ferrari, c'est qu'on sait par quoi il est passé l'an dernier. Cette attente, bien évidemment, du transfert du siècle, où tout le monde se dit, mais le gars, il n'a pas le droit à l'erreur, c'est un septuple champion du monde, donc il faut qu'il se passe des choses. On connaît la pression qu'il y a à la Scuderia. Ça se passe mal l'an dernier. On était les premiers à le dire, et c'est normal, Jean-Luc le disait, parce que les performances montraient que Hamilton n'y était plus, n'y était pas, et que peut-être qu'on ne reverrait jamais le grand Lewis Hamilton. Et la transformation, là, depuis le début de saison, elle est fulgurante, quoi. Et ça, c'est quand même monstrueux. Ça marque un petit peu la légende qu'est Hamilton.
Ouais, on a vécu un moment fort de l'histoire de la Formule 1 hier, un moment fort de l'histoire du sport, tout simplement, puisque en fait c'est la victoire du pilote le plus victorieux de l'histoire, avec l'écurie et l'équipe la plus victorieuse de l'histoire. C'est quand même quelque chose d'assez légendaire. Hamilton, qui était, comme l'a dit Jean-Luc, au plus bas il y a quelques temps, remonte et à une vitesse assez exceptionnelle, puisqu'il n'a plus que 41 points de retard au championnat. Les gens qui l'avaient déjà enterré, on s'attendait à un duel pour le titre entre les deux Mercedes, se disent « tiens, il y a un invité surprise ». Ouais, assez impressionnant, son émotion parle pour lui-même. Et je sais pas, moi ça m'a rappelé les beaux jours de Vettel chez Ferrari, quand un grand champion gagne pour Ferrari, se bat pour le titre et... On aurait limite eu envie d'écouter et d'entendre un petit Grazie ragazzi, mais c'était un moment fort et peut-être l'un des moments clés de la saison à venir.
Ouais. Revenons un petit peu sur cette course, on en a parlé Jean-Luc, cette stratégie aussi de Lewis Hamilton qui a mis la pression à Mercedes et à Russell qui partaient en pole position. Ils ont réussi à inverser un petit peu le rapport de force, quoi, alors que Russell était en pole, et cette stratégie décalée a clairement mis le doute à Mercedes.
Barcelone est un circuit particulier, tu le sais bien, avec ses presque 600 mètres de ligne droite depuis la pole position sur la grille. C'est extrêmement long et ça permet de bénéficier justement d'une aspiration. Alors, on se souvient que depuis le début de l'année, avec ce nouveau règlement, les Ferrari s'élancent traditionnellement mieux que les autres, en tout cas mieux que les Mercedes. Alors, on a travaillé, la preuve, chez Mercedes, on est parvenu à conserver cet avantage, mais du coup, on a tenté un coup, et c'est vraiment très bien, et c'est ça que j'aime, moi, quand stratégiquement, on essaie des choses. Chez Ferrari, on a décidé de faire partir Hamilton, ou il a décidé conjointement, évidemment, de partir en soft. Ça a été le cas de Verstappen, ça a été le cas d'Hülkenberg, ça a été le cas de Colapinto, de Sainz. Bref, il y en a qui ont osé. Et ça, moi j'aime. Alors évidemment, ça supposait une stratégie vraisemblablement à trois arrêts, parce qu'il fallait s'arrêter. Pirelli avait annoncé la couleur entre le 12e et le 17e tour, à peu près. Donc on s'est arrêté au 12e pour Lewis Hamilton. Et ça supposait une réaction des adversaires. À partir du moment où, effectivement, il était resté devant George Russell, il avait pu conserver l'avantage, il commençait à creuser un petit peu l'écart, on savait que Lewis allait être le premier à repasser par la voie des stands pour tenter un fameux undercut. Ça a été le cas au 12e. On a réagi très vite chez Mercedes en arrêtant peut-être un poil tôt parce qu'on était parti avec des médiums. Du côté de chez Mercedes, on l'a arrêté au 13e pour répliquer. On a arrêté Lando Norris au 14e. On a arrêté Kimi Antonelli au 15e. Bref, la réaction et la stratégie de décaler, anticiper d'Hamilton a forcé les adversaires à réagir. Et pour répondre à ta question, Monico, ça c'est très important. Moi j'aime beaucoup toujours les commentaires. D'abord, j'adore le personnage de Fred Vasseur qui prend toujours un peu de recul. Bien sûr que on est tous enthousiasmés par le résultat, etc. Mais lui, il a les pieds sur terre. Il dit, surtout, on a bien travaillé, on a progressé, on a apporté plein de nouveautés sur la voiture. Ça marche, la preuve. Même Charles, qui a été malheureux, on y reviendra, mais a dit que la monoplace avait progressé. On a osé une stratégie différente et ça a fonctionné, avec une gestion des pneumatiques qui a été formidable de la part de Lewis. Non, c'est carton plein, de toute façon, c'est mérité. Voilà. Et ça fait plaisir.
Tiens, on va après se pencher sur Ferrari et sur cette voiture qui a l'air quand même de retrouver un niveau de performance qui peut-être leur permettre de prétendre à des choses sur cette fin de saison. On va en parler, mais juste avant, on va quand même écouter Lewis Hamilton au micro de Canal+, sur son émotion et ce que ça fait, ce que ça lui fait de gagner avec Ferrari.
It's hard to put into words. Ultimately, I feel.
C'est difficile de trouver les mots, de dire ce que je ressens. Mais je ressens beaucoup de gratitude. Je suis extrêmement fier de l'équipe, de ceux avec qui je bosse. Ils ont traversé beaucoup de moments difficiles. J'ai traversé beaucoup de moments difficiles l'an dernier, en interne et en public, et j'ai réussi à me à me reconstruire cet hiver. Je me suis entraîné dur, j'ai reconstruit mon mental. J'ai reconstruit l'équipe autour de moi aussi. Et ça me rappelle simplement qu'il ne faut jamais abandonner. Il faut continuer de travailler, d'essayer. Si on chute, il faut se relever. Même si on tombe 2 fois, 100 fois, il faut se relever. J'étais enfant quand Michael Schumacher a gagné en 96. Je regardais le Grand Prix à la maison. Et je rêvais de savoir ce que ça fait d'être en rouge sur le podium. Quand j'ai vu en bas du podium là, les Tivosi, l'équipe en rouge, il n'y a rien de tel. C'est spécial dans chaque équipe de gagner. Mais gagner chez Ferrari, c'est au-delà du spécial. Spécial, ça ne suffit pas. C'est bellissimo. Je suis reconnaissant à vie pour Fred Vasseur, envers Fred Vasseur de m'avoir donné cette chance, de m'avoir emmené dans cette équipe. L'an dernier a été difficile pour tous les deux. Je suis certain qu'il y a eu du doute. Mais il a gardé le cap. Il a continué de m'aider. Et surtout, à la fin de l'année, il m'a écouté. Il m'a aidé à changer des pièces du puzzle pour que je puisse revenir à mon meilleur niveau. Et pour faire avancer cette équipe, nous n'aurions pas pu y arriver sans ça, donc sans tous ceux qui travaillent dur à l'usine. Je me sens bien, franchement, je me sens vraiment bien cette saison, très solide. J'ai foi dans les capacités de cette équipe. Même avec le déficit de puissance qu'on a surmonté aujourd'hui, on a une direction claire, on pose les fondations, il reste énormément de courses. Ça ne se passera pas toujours ainsi, mais il faut continuer d'apprendre, continuer à avancer, un pas après l'autre. Et je crois qu'on peut mettre la pression à Mercedes. Voilà, Lewis Hamilton. Bon, on vous l'a monté en long, les amis, mais... Il a bien tout résumé quand même, hein. L'ami Lewis Hamilton, Nico, tu sens qu'il y a eu aussi ce changement avec Fred Vasseur, Jean-Luc en parlait, il n'était pas bien l'an dernier, tout le monde a bossé en essayant de se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut changer? Comment tu peux te sentir mieux? On sait qu'il y a eu cette histoire de frein où il a délaissé Brembo pour une marque de frein française, Carbon Industries. On sait aussi qu'il a rechangé son équipe d'ingénieurs autour de lui, il a ramené des petites pièces à lui, qui font que, bah, il en parlait lui-même, c'est le puzzle un peu là qui est en train de s'assembler autour d'Hamilton.
Comme il le dit, hein, le travail paye toujours. Et à des moments, pour gagner, il faut mettre les pièces dans le bon ordre et compléter le puzzle. Ça a pris un an, ça a pris un peu plus d'un an. Donc, très content pour lui. Cette victoire, il ne l'a pas volée. Cette victoire, Ferrari ne l'a pas volée parce que la stratégie était parfaite. On a tendance à dire que Barcelone, c'est un circuit qui représente bien les capacités d'une monoplace pour le reste de la saison, avec des longues courbes et des passages plus lents. Là, premier Grand Prix de l'année avec des températures assez coriaces et on voit que la Ferrari fonctionne bien. C'est certainement une bonne chose et de bon augure pour le reste de la saison européenne où il risquera probablement de faire très chaud.
Ouais, ça c'est clair. Donc justement, je vais vous poser la question, Seb et Jean-Luc. Là, est-ce que Ferrari a trouvé sa voiture? Il y a eu un gros package d'évolution là, à Barcelone. Est-ce que ça peut être un tournant de la saison pour eux, Seb, ce Grand Prix de Barcelone? On sent que la monoplace, c'est plus la même. C'est plus la même qu'il y a 6 courses.
Ouais, c'est clair. Déjà, d'un point de vue pour le moral de l'équipe, tu sais, tu travailles dans l'usine, tu vois la voiture qui gagne, qui marque de gros points, qui revient en championnat. Hier, à Maranello, les gens étaient dans la rue. Et donc, en fait, ils le voient. Donc, ça leur donne une énergie énorme. Et en fait, il manque une seule chose désormais à Ferrari, c'est de pouvoir améliorer son moteur. Parce que d'un point de vue aéro, la conception de la voiture... elle est top, elle est vraiment bien. Et du coup, tu te dis, ok, si maintenant il commence à améliorer le moteur, parce que la duo doit arriver quand la FIA daignera enfin nous donner les résultats de leurs analyses qui prennent je ne sais pas combien de temps, tu te dis, ok, si l'aéro fonctionne comme elle fonctionne actuellement et tu rajoutes un moteur qui va avoir des améliorations, ça va être intéressant parce que Mercedes, il a dit Toto Wolff, nous on s'est trop regardé cette course-là, et qui en a profité, Lewis Hamilton. Ça me fait un petit peu penser à ce qui s'est passé en 2007, à l'époque Mercedes-Ferrari, t'avais Raikkonen sur le côté qui se faisait un petit peu discret, on avait Alonso et Hamilton chez McLaren qui se tiraient la bourre, ils ont perdu des points, et qu'est-ce qu'on a profité à la fin? C'est Kimi Raikkonen, donc ça va être intéressant de voir ça. En tout cas, Ferrari à les bases. Après, faut pas trop s'enflammer non plus, parce que Mercedes reste devant. J'étais assez surpris de pas les voir plus que ça devant, malgré tout. Mais c'est de bon augure, c'est de bon augure. Et l'Autriche, Ferrari devrait, on va rester au conditionnel, avoir des améliorations. Si encore une fois, ça tape dans le mille, ça va être intéressant.
Ouais. Avant de basculer sur Mercedes, mon Jean-Luc, là, c'est vrai que les évolutions qui ont été emmenées sur cette Ferrari, elles te... ça t'impressionne là, le boulot qui a été fait par l'écurie. On a la sensation, peut-être, alors McLaren aussi a bien gapé depuis le début de saison, mais on a la sensation que c'est l'écurie qui progresse le plus, peut-être Ferrari.
Oui, absolument. Oui, non, bah, le travail, ils insistent toujours et ils ont raison. De toute manière, bon, axiome numéro un, tout le monde travaille à bloc. Je peux te dire que même Aston, là aussi on peut en dire ce qu'on en veut, même Cadillac, même Audi, ben je peux te dire qu'ils sont tous à bloc. Alors il y a un moment, ça paye. D'autres fois, évidemment, c'est un peu, non pas décourageant, mais désespérant. Mais il faut garder le moral, il faut toujours y croire. Et Williams, que dire de Williams, qui était bien l'an dernier, qui est beaucoup moins bien cette année. Donc oui, ça m'impressionne, bien sûr, mais on connaît la puissance de feu de la Scuderia Ferrari. Hein, c'est l'écurie mythique, l'écurie la plus ancienne. Tiens, par parenthèse, deux ou trois petites anecdotes. Je pense que le beffroi, le clocher de Maranello a dû résonner pour cette belle victoire. On sait que le curé de Maranello fait résonner les cloches à chaque fois d'une très belle victoire. Et ce n'était pas arrivé depuis le Mexique 2024. Parce que chronologiquement, la dernière victoire de Ferrari en Grand Prix de Formule 1, eh bien, c'est le Mexique 2024. Ensuite, on peut dire que Lewis est aussi le pilote le plus âgé à triompher depuis Jack Brabham en 1970, donc ça fait beaucoup de choses. Et puis allez, la dernière petite chose, le podium britannique, on en a parlé, hein, c'est la première fois depuis 1968, et à l'époque il n'y avait rien moins que Jackie Stewart, Hill et Surtees sur le podium. Voilà.
Que des champions du monde. Que des champions du monde. Est-ce que ça veut dire que Russell rejoindra ce groupe mythique?
Écoute, la question peut se poser, effectivement. En tout cas, là, bon, il a repris 18 points à Kimi Antonelli. Alors, on peut, pour rester chez Ferrari points. Avant de passer chez Mercedes, on peut effectivement se dire que bah, les Ferrari sont là. Même Charles Leclerc, malgré son week-end, on va dire, au global catastrophique, l'a dit, l'a avoué, l'a voiture, et c'est pour ça qu'il est d'autant plus furieux contre lui-même, hein, il l'a dit, il a commis une grosse erreur en qualif qui a engendré après le reste. Après, bon, le problème mécanique de direction à citer sur la fin, il n'y est pour rien, mais ça, on remarque que la fiabilité de ces usines à gaz que sont les Formule 1 aujourd'hui reste quand même un peu précaire, hein, puisque chez Mercedes, chez Ferrari, de ci, de là, on a quand même des gros, chez Aston, évidemment, on a quand même des gros problèmes de fiabilité. En tout cas, on peut s'attendre à une suite de saison dès l'Autriche, hein, dans une grosse dizaine de jours maintenant, qui va être absolument passionnante, et ça, c'est génial.
Ouais. Vous y croyez, là, Hamilton, de retour dans le match pour... Alors, bien évidemment, on se projette, et bien évidemment, on essaie de faire à chaque fois des débats un petit peu clivants. Vous allez me dire qu'il y a deux semaines, on ne se projetait pas du tout sur ça. Moi, j'étais le premier à dire que je ne voyais pas comment Mercedes pouvait perdre le titre. Je continue de le penser, mais malgré tout, il y a un 25-0 ce week-end, il y a Hamilton qui revient à 41 points, il y a une Scuderia Ferrari qui est en amélioration. On est obligé de se poser la question de est-ce que la Scuderia, est-ce que Lewis Hamilton va pouvoir lutter pour le titre sur cette fin de saison?
Moi j'y crois.
Ouais, tu crois.
Moi j'y crois. Ouais, parce que comme on le disait au tout début, il a la dalle, il a retrouvé cette niaque. Et là, quand on retrouve un Hamilton qui a l'envie, qui y croit, ça va être intéressant. Il ne faut pas oublier Charles Leclerc, on en parlera tout à l'heure, mais je pense qu'il sera là. On va avoir une très belle lutte. Il ne faut pas oublier Mercedes, parce que comme tu le dis, si Mercedes le perd, c'est entre guillemets à cause des problèmes de fiabilité, les pilotes qui se touchent, ce genre de choses. Il ne faut pas se leurrer, ils ont encore un cran d'avance. Mais, c'est jamais terminé en Formule 1, on l'a vu dans plusieurs saisons, jusqu'au dernier tour, jusqu'au dernier virage. Mais moi, j'ai envie d'y croire, et pour le spectacle, et puis pour l'histoire. Imaginez, s'il venait le gagner, venait à gagner ce titre. Oh là 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 là. Incroyable.
Ah, ça, s'il arrive à le prendre et à le faire, le 8e en plus, là, chez Ferrari, ce serait. Il aurait terminé le jeu un peu.
Oui. Oh, ça nous montre aussi que tout ce qu'on vit actuellement, que Ferrari qui fait une super course et qui gagne vraiment à l'aise cette course, malgré le fait qu'il y a un moteur dont on parle d'un déficit de 4 à 6%, ça montre bien que la Formule 1 actuelle, c'est vraiment pas qu'un moteur. On a tendance à tout simplifier en disant ils ont le meilleur moteur, patati patata. Non, la Formule 1 actuellement, au dire des ingénieurs, c'est 65% d'aéro, 35% de moteur. Alors après, on rajoute le pilote, hein, bien sûr, mais pour rebondir...
150%, c'est normal.
Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Luc, avec les problèmes technologiques et des moteurs, est-ce que c'est pas pour nous... Moi, ça me fait plaisir, en fait, de voir des problèmes moteurs, parce que c'est un sport automobile, et il y en avait marre l'année dernière d'avoir des courses où les 20 voitures arrivaient dans l'ordre de départ. Nous, ce qu'on veut, c'est du chahut, c'est des courses où, à la fin, le vainqueur, il est très heureux parce que c'était une course exceptionnelle et qu'il a donné le meilleur de lui-même, et puis avec des twists et des abandons à droite à gauche. Et c'est l'un des gros problèmes des moteurs Mercedes depuis le début de l'année, aussi bien chez Williams, chez Alpine et chez Mercedes, c'est la fiabilité.
Ouais. Clairement. Bah allons-y sur Mercedes, les amis. Le premier coup d'arrêt un petit peu pour Kimi Antonelli qui a dû abandonner. On va se focaliser un peu là sur Antonelli. Qui a subi les éléments, hein, qui était plutôt au rendez-vous. Mais malgré tout, on va voir comment il se relève de ça, Jean-Luc Antonelli. Hein. Te prendre un 25-0 face à Hamilton, te prendre un 18-0 face à ton coéquipier, ça va être intéressant de voir le rebond d'Antonelli dans 15 jours en Autriche. Hein.
Absolument. Bah, tu sais, je vais rappeler plutôt un élément important, et je crois que ça a pesé sur son week-end. Il l'a un tout petit peu laissé entendre, on ne peut pas faire autrement. C'est son remplacement par Frédéric Vesti lors de la FP1. Parce qu'il est encore très jeune, Kimi. Il n'a que 19 ans. Il est dans sa deuxième saison. Il a une trentaine de Grands Prix au compteur. Il a encore beaucoup de choses à apprendre, à tester par lui-même, à développer. Et là, il a été privé de cette première grosseur d'essai, même si quelqu'un a fait le boulot. Il avait un programme précis, Vesti l'a exécuté, il n'y a pas eu de problème. Mais ce n'est pas pareil. Je pense qu'il est parti avec un petit recul, un petit retard. Alors bon, c'est infinitésimal, hein, mais à ce niveau-là, c'est quand même tellement important de relever ce genre de détails. Il n'était que cinquième temps, par exemple, de la FP2. Hein, voilà, j'y reviens. Là, il n'était pas complètement... Il était septième temps de la FP3, vous voyez. Donc, il n'était pas tout à fait dans le coup, en tout cas, pas tout à fait au niveau de Russell. Bon, ça, c'est une explication. La deuxième, alors concernant le résultat, là je fais un bond vers la course, Russell reste devant, il creuse un petit écart au début, on comprend la stratégie décalée, on réplique, finalement on est obligé de suivre Ferrari sur une stratégie un petit peu anticipée parce qu'on aurait bien laissé les deux Mercedes en piste un peu plus longtemps avec les pneumatiques médium. Et puis, alors je vais poser la question qui fâche, hein, mais je suis là pour ça, que se serait-il passé si on avait décidé chez Mercedes de laisser passer Antonelli, qui a refait les 6 secondes de retard, vous l'avez vu, en quelques tours, qui a fondu littéralement sur la boîte de vitesse de Russell, et là, il a dit à la radio, le petit Kimi, il a dit « je suis beaucoup plus rapide, non pas que Russell, que je le suis actuellement. Je peux aller beaucoup plus vite. » On l'a laissé dans le flux parce que c'était trop tôt. Bon, rien à dire, rien à regretter. Ce qui confirme, par parenthèse, que je disais il y a quelques briefings, quelques paddocks, que Toto Wolff, pour le moment, est un vrai sportif. Il les laisse se battre, hein, parce qu'il aurait pu dire, bon, là, manifestement, si on veut aller chercher Lewis, il faut envoyer Kimi à la bataille. Qu'aurait été la fin de course, on ne sait pas. Bon, mais il y avait quand même un doute et il y avait un coup à tenter. Et je dois avouer que cyniquement, stratégiquement, il aurait fallu le tenter. Voilà.
Ouais, clairement. Les gars, ces problèmes de fiabilité là, de Mercedes qu'on a vu un petit peu sur cette saison, hein, c'est pas la première course où il y a des galères. C'était George Russell là, qui a été frappé ces derniers temps. Là, il se trouve que c'est Antonelli. Est-ce que c'est de nature à vous inquiéter un peu là, pour cette fin de saison? Ou malgré tout, comme on le disait, c'est l'incertitude du sport automobile, ça va s'inverser au bout d'un moment, ils vont bosser sur ça et ils vont régler les petits soucis de fiabilité qu'ils peuvent avoir.
Inquiéter, c'est un grand mot, mais par contre, ça va rester dans un coin de la tête des pilotes. Et ça, quand tu sais que ta voiture peut te lâcher à un moment ou à un autre, peu importe la performance que tu vas accomplir, mentalement, c'est quelque chose que tu aimerais bien éliminer. C'est arrivé à Russell au Canada, c'est arrivé à Antonelli en Espagne. Quand ils seront en tête, et qu'ils entendront un petit bruit sur la voiture, ils se diront « Oh, tiens !» Donc, inquiétés, non. En revanche, un petit carton jaune, histoire de dire que, attention, c'est pas parce que t'as la voiture la plus performante que tu vas forcément rallier l'arrivée à chaque fois. Donc, c'est un petit rappel. Et Toto Wolff, on l'a vu, on peut regarder sur les réseaux sociaux de Mercedes. À la fin, il le dit, je suis très content pour Hamilton, mais je suis quand même très frustré parce que d'un point de vue technique, encore une fois, on se plante. Ça fait beaucoup. Et heureusement pour Mercedes que Charles Leclerc, à la fin, il abandonne parce que sinon, il serait repris encore un bon petit paquet de points. Et il le voit, Toto Wolff, il a l'expérience. Il se dit, deux occasions où on pouvait, on avait 25 points et au Canada, et là, on avait 18 points en plus qu'on laisse filer. Donc, attention.
Ouais, moi, je vous lis la déclate Toto Wolff, Nico. C'était une course nulle pour nous. Premièrement, on ne peut pas avoir des abandons tout le temps. On ne gagne pas de championnat si on a des voitures qui s'arrêtent. Deuxièmement, en étant toujours fair, donc ça veut dire en étant toujours juste entre les deux. Maintenant, il y a un troisième pilote avec Lewis qui se bat pour le championnat du monde et il faut désormais faire attention. Tu vois. Donc, lucide Toto Wolff.
Comme à son habitude.
Comme toujours, mais est-ce que ça veut dire aussi que ça peut changer des choses dans son rapport à la lutte entre Antonelli et Russell là, après cette décla? Moi, je me suis posé la question quand j'ai vu la décla.
Ouais, course nulle, j'en connais qui aimeraient avoir des courses nulles comme ça, on va penser à Aston Martin, bref, parce que c'est vraiment, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment terrible ce qui se passe pour Aston Martin, bref, encore une fois, c'est la Formule 1, c'est un sport mécanique, on ne cesse de le répéter. Comme l'a dit Seb, ils vont avoir ça dans un petit coin de leur tête à chaque fois, quand il y aura des petits bruits. C'est exactement ce qui est arrivé aussi aux pilotes Red Bull ces derniers temps. Le championnat, d'une certaine manière, il est relancé un peu pour tout le monde. Il s'ouvre un peu plus et les prochaines courses vont être un peu plus suivies par chacun et les résultats un peu plus décortiqués, on va dire. Donc non, moi je trouve que d'un point de vue sportif, c'est une très bonne chose ce qui se passe et hâte de voir la suite.
Est-ce qu'on va avoir des consignes là, face à la menace Hamilton, Jean-Luc ?
Non.
Alors, des consignes, non, mais tu vois, on se pose la question. Hein. Je viens de l'évoquer, Toto Wolff le dit clairement. Il dit attention, on ne joue plus entre nous là maintenant. Eh oui, et on ne sait pas, on en est quand même, on vient à peine de disputer le 7e Grand Prix. Hein. Je rappelle qu'il y en a 24, parce que vous verrez une nouvelle fois que les deux, et tant mieux, il y a eu quelques plutôt bonnes nouvelles ce week-end, donc a priori, on va les voir revenir, les deux Grands Prix qui ont été repoussés.
on le parie.
Je suis prêt à le parier.
Je parie avec toi, Jean-Luc,
ça fait longtemps que je le parie, depuis le début même, je l'ai dit, vous verrez. Bon, bref, donc... Tant mieux pour tout le monde, déjà pour nous, pour la Formule 1, et puis tant mieux pour la FOM qui va prendre un sacré paquet de dollars au passage.
Et les écuries.
C'est pour rire. Et les écuries, bien sûr. Donc, ça veut dire que ça nous laisse 17 Grands Prix pour redevenir sérieux. Et qu'effectivement, on est quand même au tout début de la saison. Là, on est au premier quart, hein, à peu près, à peu de choses près. Il va se passer énormément de choses encore dans tous les sens. Et puis, ce fameux aduo qui a été évoqué il y a un instant, moi, qui me fait, là, une nouvelle fois, rigoler. Parce qu'écoutez, c'est grotesque, allons-y carrément. Quand on nous dit que le moteur Ford est d'ailleurs Red Bull n'en revient pas en disant quel hommage, c'est la première fois qu'on développe un moteur avec l'appui de Ford hein, quand même, et on est les plus performants. Non mais c'est un gag, c'est pour rire, c'est pas vrai. Bien sûr que c'est le Mercedes le plus performant, confirmé, je dis pas de bêtises d'ailleurs, par la plus grande vitesse de pointe, 360 km/h un moteur Mercedes. Hein. Après bon, ça dépend de la config aéro, ça dépend de plein de choses, mais il est évident que le moteur Mercedes, qui, on n'en parle plus, c'est marrant non plus, de cet avantage de rapport volumétrique, taux de compression, vous vous rappelez de ça ? C'était le scandale de l'hiver. Ah ben voilà. Et normalement, Mercedes a dû, là aussi, se complaire avec le règlement, ou plutôt se recadrer. Tant mieux pour eux, je l'avais dit, il ne faut pas les incriminer. Ils avaient exploité, effectivement, un trou du règlement, une zone grise, comme on dit pudiquement. Enfin, quelque chose que la FIA avait oublié de préciser, comme d'habitude. Donc, tant mieux pour eux, ils avaient fait le boulot. Donc, c'est un gag que de dire que c'est le moteur Ford le plus performant. C'est évidemment le moteur Mercedes le plus performant. Alors maintenant, que les autres aient travaillé et progressé dans le cadre du règlement, c'est une évidence. Et que ce soit un ensemble comme tu l'évoquais, Nico, il y a un instant, Nico 2, hein. à propos effectivement des marges. Et puis, on ne sait plus que dire non plus, parce que ce A-Duo qui porte uniquement sur la partie mécanique, ce qu'on appelle maintenant pudiquement le moteur thermique, enfin, ce que moi j'appelle un moteur, quoi. Le reste, c'est autre chose. Hein. Le reste sont des accessoires autour, électriques en l'occurrence. Donc, c'est un peu risible, parce que passer un moteur au banc, sur le même banc, tous les moteurs dans les mêmes conditions, etc. Enfin, ça, c'est scientifique. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est précis. On a les courbes. On sait exactement où on en est avec le même type de carburant, etc. Et la FIA n'est pas foutue de sortir une hiérarchie des moteurs qui soit fiable, parce que devant le tollé général et particulièrement celui de Red Bull et de Ford, on va regarder. On va mieux regarder. Bon, enfin, ça tourne au gag là aussi.
Alors que nous, on est capable de faire une hiérarchie. On regarde un truc qui s'appelle le classement des constructeurs, et puis on classe, et puis on s'est retrouvé une hiérarchie. Hein. C'est Mattia Binotto qui disait ça en conférence de presse. Moi, je vous la trouve, la hiérarchie, elle est disponible pour tout le monde.
Et autre chose sur la FIA qui montre encore une fois, attention que c'est limite, c'est que ce week-end, vous avez vu, Antonelli s'est pris 5 secondes de pénalité. La FIA n'a pas prévenu Mercedes qu'il était déjà allé au-delà des trois limites.
Ouais,
et donc, du coup, même les commissaires ont dit « La FIA, attention, parce qu'il faut plus de clarté là-dedans. » Imaginez si Antonelli avait fini sur le podium, il se serait pris 5 secondes de pénalité. Absolument. Mercedes, ils auraient dit quoi? Ils auraient dit « Mais nous, on n'était pas au courant de ça. Ok, nouvelle affaire, nouveau FIA drama. » C'est pas possible, c'est pas sérieux. Comme dit Jean-Luc, la duo, c'est pas normal. Ce truc-là, c'est pas normal. À un moment, la FIA, ils se prennent...
Ça fait beaucoup, hein.
Mais c'est pas possible. Ils se prennent une tonne d'argent. Les gars, un peu de sérieux, s'il vous plaît.
Un peu de professionnalisme. Professionnalisme, c'est tout.
Exactement.
Ils veulent avoir, en fait, tellement de contrôle sur plein de sujets différents, mais ils n'ont pas les ressources pour le contrôler. Donc forcément, à un moment donné, ça dérape.
J'adore quand vous me faites des débats comme ça qui sont pas très beaux.
Improvisés, carrément.
J'adore. Je me tais, je vous écoute, c'est magnifique. Les gars, revenons un petit peu sur la course et sur Charles Leclerc, globalement sur le week-end de Charles Leclerc, Jean-Luc, qui vit peut-être la pire période de sa carrière, probablement même. On le sent marqué, on le sent touché. Dès qu'il est au micro d'un diffuseur, c'est compliqué pour lui. Tu sens qu'il essaye de faire le job en disant « je suis content pour l'écurie, je suis content pour Lewis Hamilton », mais ça le ronge de l'intérieur, ce qui est en train de se passer à Charles Leclerc. Et en plus de ça, avec cette pression-là, il en arrive à commettre quelques erreurs. Ça a été le cas en Q3. Donc... ouais. Est-ce qu'on est inquiet pour Leclerc? Ça reste un grand champion. On sait qu'il a largement le potentiel pour être champion du monde. Mais ça ne va pas être facile aussi là, d'inverser la courbe, hein, pour Leclerc, avec ce qui se passe du côté de Hamilton et toute la dévotion qu'il va désormais y avoir pour Hamilton du côté des Tifosi.
Tout à fait, mon Nico. Écoute, pour être clair, vous savez à quel point j'aime ce pilote, j'aime ce garçon que j'ai la chance de connaître, qui est pour moi le petit frère de cœur de Jules Bianchi. Hein, et là, vous me permettrez un peu d'émotion, évidemment, en disant ça, puisque Jules l'avait pris sous son aile. Ils se connaissaient très, très bien. Les papas se connaissaient très bien. Ils ont fait du karting ensemble, même s'il y avait une différence d'âge. Enfin, bref. Donc, il a vécu des drames. Charles, il a perdu son papa quelques jours avant de décrocher son titre de champion de Formule 2. Il a démontré sa force de caractère. Il a tracé son chemin jusqu'à la Scuderia. Il s'accroche à cette Scuderia. C'est vraiment, c'était son rêve. Il y est un peu à la façon. Il y a plein d'exemples. Tous les pilotes rêvent de rouler chez Ferrari, mais on peut parler de Jean Alesi, on peut parler de Ayrton qui était à deux doigts de signer, Ayrton Senna bien sûr, qui était à deux doigts de signer avec Ferrari également à un moment. Bref, j'en reviens à Charles. Je suis peiné pour lui, mais je sais qu'il va rebondir. Je sais que le potentiel est là, il le sait aussi. Il n'a rien perdu de ses qualités. Et c'est peut-être la seule chose qui, pour moi, a mis un peu d'ombre à ce triomphe formidable de Lewis Hamilton. Qu'est-ce que j'aurais aimé que Charles l'accompagne sur le podium, soit là lui aussi, n'ait pas connu encore une course dramatique dans tous les sens du terme. Et puis lui, il est honnête, hein, une nouvelle fois. Donc quand il nous dit qu'à Monaco, il est sorti de la piste et qu'il y était absolument pour rien, que c'était un problème technique, mécanique, ce que vous voulez, eh ben on peut le croire. Parce que là, quand il se sort en qualif, en faisant trop, évidemment, dès sa première tentative en Q3, eh ben il tente, c'est un pilote, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, c'est la vie. Hein. Et puis après, il part de tellement loin, évidemment, en course que il essaie d'arranger ce qu'il peut et puis il est encore frappé par un problème mécanique. Là aussi, ça commence à faire beaucoup chez Ferrari, hein, parce qu'avec ceux qui l'ont affecté précédemment, plus celui-là, Il va falloir permettre à Charles de développer tout son talent. Alors, l'écart se creuse. Hein. Tu l'avais évoqué, mon Nico, avec le score. 115 points maintenant pour Lewis Hamilton, deuxième au championnat. Et seulement, je dirais, 75 pour Charles Leclerc. C'est un véritable gouffre en Formule 1 entre équipiers. Il faut dire qu'il a eu deux scores vierges donc, lors des deux derniers Grands Prix, pour les raisons que je viens d'évoquer. Allez, on y croit, Charles. Ça va revenir, peut-être dès l'Autriche, et je l'espère de tout cœur.
Ouais, les gars, est-ce qu'on est inquiet pour Charles Leclerc ?
Ok, non, c'est, là aussi c'est un avertissement dans le sens où tu te dis mince, encore une fois, bah, tu passes à côté de ton week-end, un coup un problème technique, un coup...
En fait quand je dis inquiet Seb, c'est que, bon, bien sûr, on en parlait avec George Russell, les mecs, les pilotes ne deviennent pas mauvais du jour au lendemain, mais malgré tout, quand tu es dans un temps faible comme ça, et que en plus tu n'as rien, tu as les petits signaux qui font que les dixièmes ils sont pas en ta faveur, les incidents sur la piste ils sont pas en ta faveur, tu vas avoir une voiture de sécurité qui tombe bizarrement, tu es dans une mauvaise période, bim, bah, ça va pas te profiter parce que tu es dans le dur. Et là on sent que Leclerc, en fait, il n'y a rien pour lui. Ouais. Là il est dans une phase actuellement où tu vois, il n'y a plus rien pour lui.
Je pense qu'il doit faire le dos rond. En fait, un peu ce qu'a fait Russell ce week-end, je pense qu'il doit faire pareil. Il doit essayer de trouver, d'avoir un week-end sans problème. Tu n'auras peut-être pas un week-end avec beaucoup de panache, des temps incroyables, tu iras peut-être un tout petit peu moins vite. Et encore, est-ce qu'ils y arriveraient ? Je pense pas, parce qu'ils sont tellement à 200%. Mais te dire, ok, je dois passer au travers des embûches, finir sur le podium, et ça y est, je relance la machine. Un petit peu comme Russell, qui, il a la chance avec l'abandon d'Antonelli, finit sur le podium et pas derrière son coéquipier. Donc ça y est, il a remis les choses dans le bon sens, et il l'avait dit avant la course, moi c'est bon, je suis rassuré, j'ai retrouvé le rythme. En fait, Charles a besoin d'un week-end propre, où il remet tout dans le bon sens, parce qu'il sait piloter, il sait bien le faire, là-dessus il n'y a pas de souci. Donc mets tout dans le bon ordre, c'est facile à dire depuis ma chaise, hein, évidemment, mais s'il met tout dans l'ordre, ça va le faire. Et j'aimerais juste souligner aussi, pour montrer à quel point ce mec humainement est top, et ça va dans le sens de Jean-Luc, c'est au moment où il y a eu la photo d'équipe autour de Lewis Hamilton, il était là, Charles, et ça c'est important. Et quand il est arrivé, les mécanos étaient très contents, ils ont applaudi, ils lui ont sauté dessus en mode ouais, on est content que tu sois là. Et ça, c'est pas tous les pilotes qui feraient ça, d'être dans cette photo de famille. Tu viens de te taper deux courses de suite avec zéro point, lui il était là, donc ça prouve aussi qu'il y a une certaine solidité, solidarité dans cette équipe. Et j'ai envie de dire, Charles, fais-nous cette course sans problème technique, sans erreur humaine au Grand Prix d'Autriche, et ça va y aller. Et une fois que Charles sera de retour à 200%, moi je le mets dans cette course, même au titre, j'y crois.
Ouais. Nico, rapidement sur Leclerc, il y a des signaux qui te font dire que ça va être compliqué pour lui, ou est-ce que le talent du pilote et son corporatisme, son amour pour Ferrari, tout ça va faire qu'il va trouver la solution?
Non, mais c'est la malédiction des pilotes mariés. Les pilotes qui se marient deviennent
moins
rapides.
C'est vrai, mais c'est totalement vrai.
Non, pour casser un peu la plaisanterie, non, bien sûr, il a vécu des moments bien plus compliqués, Jean-Luc les a rappelés, dans sa vie. Ça va revenir, c'est fait de... Sa carrière, un peu, c'est ce qu'on pourrait lui reprocher. Sa carrière est faite de bons moments et de gros creux. On l'a 2022. Souvent remarqué. Ça va revenir. L'avantage, c'est que comparé au début d'année, là, la prochaine course est dans 2 semaines et non 6. Donc ça peut inverser la tendance très rapidement. Et Jean-Luc pourra peut-être confirmer ou infirmer cela, mais j'ai rarement dans mes souvenirs des années où les deux pilotes Ferrari performent de la même manière. Et il y a souvent un qui prend l'avantage de manière assez importante sur l'autre.
C'est vrai.
C'est un peu vrai, tu as raison. Mais alors les problèmes mécaniques, là aussi, qu'on ne peut pas suspecter en aucune manière, quelque équipe de F1 oui. que ce soit, de mépriser ou de négliger même un pilote, surtout au niveau de budget. Dans le temps, oui, bien sûr, moi je l'ai connu, hein, il y avait des monoplaces qui étaient moins bien préparées que d'autres. C'est une évidence, tout le monde le savait. C'est-à-dire qu'on mettait l'argent, les moyens, les meilleurs sur une machine, et puis la deuxième était un petit peu moins bien traitée, on va dire. Pas méprisée, pas négligée, mais moins bien traitée. Là, c'est plus le cas. Là, sincèrement, on peut plus dire ça, même si... Parfois, on teste une modification ou une amélioration sur une des voitures et pas sur l'autre, mais ça c'est normal, c'est le principe du test. Hein. On ne va pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et puis surtout, on compare. Mais aujourd'hui, non, ce n'est pas le cas. Le problème, c'est un problème de fiabilité. Là aussi, problème de direction assistée, c'est un truc de fou. Bah, ça rappelle malheureusement, c'est un autre débat, hein, la mésaventure de là aussi, mon pote, Seb Bourdet, au Mans, avec la Cadillac, qui est en train de se battre pour la tête hein, jusqu'à 4 heures du matin et qui a un problème de direction assistée. Un truc
pourtant,
à deux balles.
Nouveau, hein.
Ben non, mais tu vois le parallèle. On peut le faire aussi. Alors, bon, c'est le Mans, c'est de l'endurance. On se dit, bah oui, après 12, 14, 16 heures de course, ça lâche. Mais là, pas après 60 tours, en l'occurrence pour Charles. Voilà le problème. Bon, le problème de, comme tu le rappelais, le problème des sports mécaniques, ben, c'est un petit peu la mécanique. Quoi.
Nico, en disant, ouais. Tu vois, je pense que ouais. Charles, il a grillé tous ses jokers là. Que ouais. Antonelli, il en a grillé un ce week-end, mais il en a tellement d'avance. Hamilton, pour moi, il est au milieu. Russell, il les a tous grillés pour revenir au niveau d'Antonelli. Et ben, c'est pareil pour Leclerc. Il les a tous grillés. Maintenant, faut avancer.
Ouais. Ouais, ouais, l'image est belle. Je valide. Je valide cette histoire de joker grillé. Les gars, tiens, vous savez qu'on a notre nouvelle rubrique là, le coup de gueule ou le coup de cœur de Jean-Luc Roy. Je crois que c'est un coup de gueule pour Jean-Luc ce week-end.
Oh yes, ladies and gentlemen, now we are... Il faut arrêter la Formule 1 parce que ça ne sert à rien.
Après, il s'est lancé dans une remontée vraiment à couteau ouvert.
Des moteurs de trottinette ou de tondeuse à gazon.
Mais écoute, s'il n'est pas gonflé comme une pendule, là. Et la queue du Mickey au rétroviseur aussi, t'es d'accord?
Bon Jean-Luc, tu voulais nous parler de ce tracé oui. de Barcelone qui ne sera plus au calendrier de la Formule 1 chaque année. Et ça, à chaque fois, ça te flingue. Je sais que ça te flingue, ça.
Bah, c'est pas que ça me flingue, si tu veux. Bon, encore une fois, et je le répète à l'envi, je ne suis surtout pas contre les changements, les évolutions, si ça va dans le bon sens. Alors, je ne vais pas me permettre de juger de ce fameux tracé du Mad Ring. Vous apprécierez le jeu de mots à se rouler par terre. Mad, en anglais, ça veut dire fou. Hein. Ring, bah, c'est un anneau, donc c'est l'anneau fou. Bon, ok, on vend ça comme ça. Le jeu de mots avec Madrid, évidemment, tout le monde l'aura compris. C'est un petit peu enfantin, un petit peu ridicule, mais ce n'est pas le problème. Bon, on nous annonce un circuit long de 5 km 416 avec, tenez-vous bien, 22 virages. Mais surtout, alors là, parce que maintenant, c'est The Show Must Go On, et là, on se croirait à Disneyland, hein, ou quasiment, c'est qu'il y a le virage numéro 12, qui est déjà surnommé la Monumental, avec l'accent espagnol, j'essaie, avec un banking de 24%, tiens-toi bien, et 45 000 spectateurs autour. Mais c'est quoi? C'est les Jeux du Cirque ou c'est un circuit de Formule 1? Alors, il y aura une vitesse de pointe de 340. Bref, on ne sait plus où ça s'arrête, on ne sait plus où ça commence. Moi, je vais vous dire où ça commence. Ça commence évidemment par le fric, comme d'habitude, puisque vous savez bien qu'en Espagne, il y a une rivalité à tous les niveaux, pour ceux qui aiment le foot, hein, entre Madrid et Barcelone, évidemment, entre l'Espagne, le cœur de l'Espagne, la capitale de l'Espagne, et puis la Catalogne, ça a toujours été comme ça. Alors, on avait construit ce circuit au début des années 90, qui a donné parfaitement satisfaction, même si je sais, je ne vais pas, là aussi, enjoliver le truc, il y a eu des courses soporifiques, mais comme sur tous les circuits, pratiquement, des courses qui étaient délicates, mais tu l'as rappelé, mon Nico, c'est un circuit complet, un circuit de base, un circuit où toutes les équipes se retrouvaient, où ça met en évidence effectivement les défaillances, tant des pilotes parfois que des mécaniques. Donc c'est un truc parfait. Et là, on nous propose quoi? Eh bien, comme il faut faire entrer Madrid, qui arrive d'ailleurs, hein, ce sera du 11 au 13 septembre, on saura ce que ça donne. Oh ben, rassurez-vous, un petit peu à la manière là aussi, de Las Vegas, de Miami, si vous voulez, j'en ai plein d'autres, hein, de ce qui se passe dans certains pays du Golfe. On va vous créer un circuit de toutes pièces. D'ailleurs, il paraît toujours qu'en Arabie Saoudite, on est en train de nous ménager un truc qui sera le Madring puissance 10, donc avec, pourquoi pas, le Scenic Railway, ce sera au programme. Ça me désole, parce que on méprise le sport, pour moi, au détriment, ou à l'avantage plutôt, pardon, du spectacle. On fait du spectacle à tout craint, on fait un show, et moi, ce que j'aime, c'est le sport automobile, je suis désolé, il en faut quelques-uns pour le défendre, et je serai de cela jusqu'au bout.
Ouais, c'est beau, mon Jean-Luc, à chaque fois, là, j'adore quand tu...
Je
quand
comprends tu ton coup de gueule, Jean-Luc, hein, mais je pensais que tu allais parler du fait qu'on nous a forcé à suivre le même week-end les 24 heures du Mans et un Grand Prix de Formule 1.
Ah, mais c'est bien, ça, c'est autre chose.
Ah, ben oui,
ouais.
Mais attends. Ah, bah oui. Alors, là aussi.
Allez, hey. Vas-y, Jean-Luc.
Notre ami Momo était là aux 24 heures du Mans, pardon, le président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, et pour dire plus jamais, hein, il faut plus jamais qu'il y ait de Grand Prix de Formule 1 en face des 24 heures du Mans. Parce qu'il a découvert ce qu'étaient les 24 heures du Mans, ce monsieur-là, cette année, en y venant. Non, mais non. C'est ahurissant. On est tous d'accord. Bon, depuis très longtemps, et malheureusement, et là aussi, et là, c'était pareil, hein, il y avait en face des 24 heures du Mans souvent le Grand Prix du Canada. Vous vous en souvenez, quand le calendrier traditionnel était respecté. Et puis, bah, en face d'Indianapolis, il y avait quoi ? Parce que vous pensez que les 500 miles, ça ne mérite pas non plus qu'on protège la date. Ben, y avait le Grand Prix de Monaco, bien évidemment. Donc, évidemment, avec un calendrier à 24 Grands Prix maintenant dans la saison, ben, c'est compliqué de protéger à la fois les 500 miles d'Indianapolis. Et pourtant, quelle course ! Moi qui ai eu la chance de la vivre sur place et de la commenter, je peux vous dire que 400 000 personnes autour d'un circuit. Alors là, dans la série du show, là, on peut toujours s'aligner avec le Madring. Hein, y a encore de la marge. Et puis, les 24 heures du Mans, ben, je crois que ce n'est plus à démontrer. C'est une course formidable. Et tu as raison, Nico, effectivement, ça aurait pu être mon coup de gueule, mais bon, on va pas toujours taper sur les mêmes, même si ça fait moins de mécontents.
Ouais, pour l'année prochaine, quand ils auront pas respecté leurs promesses.
Ouais, bien sûr, bah évidemment.
Je crois qu'on en est à 7 courses. 7 courses, on est à 6 coups de gueule, un coup de cœur, mon Jean-Luc.
Ouais, je vais essayer de remettre la barre. Je vais trouver. Mais j'étais, c'est Kylian, notre bien-aimé, bien efficace producteur et fantastique animateur du dernier warm-up d'ailleurs.
Oui.
Bien sûr, il avait pris ta place, mon Nico. Tant mieux pour toi.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Et il l'a très bien fait. Donc c'était, j'étais parti pour Hamilton, évidemment, Hamilton et Ferrari. Et puis, bah, je sais que c'était le sujet central, effectivement, de notre émission. Donc il fallait changer.
Mais te justifie pas, nous on adore quand il y a des coups de gueule de Jean-Luc, c'est pour ça que les gens écoutent le paddock. Tiens les gars, terminons ce podcast.
Ça crée la polémique parce que tout le monde n'est pas d'accord, donc comme ça on y va.
Exactement, exactement, et ça sert à ça le paddock RMC, ça sert à débattre. D'ailleurs, si vous êtes complètement d'accord ou vous êtes à chaque fois révulsé quand vous entendez les propos de Jean-Luc, vous nous mettez des petits commentaires et nous on vous répondra. On transmettra les messages à Jean-Luc et il vous répondra à l'antenne. Les gars, je voulais qu'on revienne sur deux petites choses là, pour terminer le podcast assez rapidement. Isaac Hadjar, sixième, qui continue à marquer des points. Sur les trois dernières courses, Hadjar, Seb, c'est 10 points, 12 et 8 du coup à Barcelone. Ça nous permet également de parler du podium rendu à Gasly à Monaco, parce que quand on a enregistré le dernier warm-up, la nouvelle n'était pas tombée. On était un peu dans l'attente. Et finalement, Pierre Gasly a récupéré son podium à Monaco. Alors ça aussi, comme décision.
Sur tapis vert.
Ouais, non mais c'est...
Au casino.
Non mais ça Jean-Luc, cette histoire de podium rendu à Gasly, déjà tu lui as privé quand même de ce moment d'émotion.
Du plaisir du podium, déjà.
Hein. Du plaisir du podium. Alors oui, pour l'écurie, tu récupères tes points, pour le pilote aussi, mais ça n'a rien à voir. Et puis en plus, ça c'est mon avis très perso, mais ça rend du coup le truc complètement illisible. Qu'un mec récupère un podium, mais 5 jours après, enfin tu vois, t'es déjà passé à autre chose, en fait, ça n'a plus aucun sens.
Bah, c'était mon dernier coup de gueule. Hein. Là, ce qui est ridicule surtout, c'est l'application des peines qui n'est pas la même. Parce que ceux qui ont payé en course, c'est-à-dire tous les autres, et bah, eux ne récupèrent pas leur position et leurs points. Mmh. Et le plus grand perdant, bah, vous le savez bien, c'est Russell. Hein. C'est Russell qui aurait dû être troisième. Puisque
Russell,
lui...
a contesté, pour info. Ça vient de tomber il y a quelques instants. Mercedes a contesté le résultat.
Oui, mais
on ne peut pas les rétablir. Tu le sais bien, Seb.
C'est clair.
Parce que là, pour le coup, comme il a payé, parce qu'on va où, là ? Comme on l'évoquait, on ne va pas refaire le dernier warm-up, on ne va pas avoir le temps, mais on disait il y a 10 pilotes qui ont été frappés, alors pour diverses raisons, et 5 pour ou 6 au total avec les essais, pour des histoires de vitesse. Tout simplement parce qu'effectivement, la FOM qui est responsable, là, pour le coup, ce n'est pas la FIA, la FOM qui est responsable de la mise en place du système de mesure des vitesses dans les stands, avait mis des loupes, comme on dit, c'est-à-dire des fils, si vous préférez, qui sont inclus, ou des lignes qui sont inclus, avec des distances de 10 à 40 mètres. Vous voyez, là, j'ai bossé le sujet, et qu'elle n'était pas fiable, parce que si les pilotes coupaient un peu à l'entrée, eh ben, on avait une distance qui était moindre que celle qui était dans l'ordinateur. Non, mais c'est risible. Voilà, c'est lamentable, et ça pourrit les courses, et comme vous le dites, et puis je vais m'arrêter là, ben, on ne sait plus où on en est, parce que si on rétablit Pierre, et on en est ravi qu'il récupère son podium virtuel, on va dire, mais quid des autres ? Quid de ceux qui ont payé l'addition sur place ? Ben, ils ont payé le casino et ils sont partis piteusement. Voilà.
Ouais, j'ai hâte de voir le communiqué qui va tomber là pour la réclamation de Mercedes concernant George Russell. Franchement, là, ça va. Mais en fait, ils ont créé une jurisprudence avec ce jugement-là. Je sais pas comment ils vont faire derrière à chaque
et
fois.
Imagine. Vas-y, pardon, excuse-moi.
Non, mais je dis à chaque fois que tu auras la moindre petite chose en course là, qui va aller dans ce sens-là, les équipes vont porter réclamation et elles auront raison de le faire en fait.
Clair. Et imagine, ils perdent le titre pour quelques points. Imagine. Mmh. Ouais. Imagine. Parce que c'est pas impossible. Ouais. Ça va se jouer à quelques points. Hein.
Bah, ça va se terminer comme Massa qui, 20 ans après, pose une réclamation, comme la fille de Rotsman qui, 40 ans après, pose réclamation contre le titre de Piquet en 81. C'est des histoires qu'on va entendre parler et Jean-Luc dit que la FIA n'est pas responsable. Moi, je trouve qu'ils sont quand même responsables parce que dans une course où, d'habitude, il y a très peu d'excès de vitesse, quand on a 7, tu dis qu'il y a un problème et t'appliques pas le règlement comme une personne débile.
Ouais. Et puis, attends, je vais rajouter, Nico, juste, allez, le dernier mot là-dessus, parce que sinon, mon Nico, si, là, tu ouvres la boîte de Pandore, toi aussi. Là, on
ouais,
a pas fini,
je sais.
Hein. Non, mais pourquoi il n'y a pas une marge d'incertitude? Pourquoi le coup prétombe pour 0,1 km/h sur une vitesse de 60? J'ai fait, encore une fois, les pourcentages, je ne suis pas mathématicien, mais ça se fait facilement. C'est de l'ordre du millième. Mais pourquoi il n'y a pas 1% de pourcentage d'erreur, comme partout? Et dans ce cas-là, on arrêtera de discuter pour des âneries, quoi. C'est comme s'ils étaient vraiment infaillibles et qu'ils ne commettent jamais d'erreur. Bah si, ils en commettent, et beaucoup.
C'est clair. Du coup, les gars, pour terminer le podcast, un petit mot sur les paires de Hadjar et Gasly ce week-end. Nico, mine de rien, Isaac Hadjar qui continue à prendre des points en mode coéquipier de Verstappen. Et ça fait que Red Bull est solide. A enfin un coéquipier qui permet d'engranger. Et Gasly qui part 14e sur la grille et qui arrive à se classer 7e, qui fait un très très beau début de saison.
Ouais, Hadjar, c'est intéressant là depuis 4-5 courses, notamment sur l'exercice des qualifications. Il reste toujours à 2-3 dixièmes de Verstappen. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un pilote Red Bull dans cette situation-là. Je pense qu'il faut remonter aux premières années de Perez quand il est arrivé. Donc ouais, il confirme tout le bien que le clan Red Bull pense de lui. Bon, il loupe un podium à Monaco, il en retrouvera d'autres. Et franchement, c'est une... Quand même, on doit le dire, une des bonnes surprises de ces 7 premières courses de l'année, c'est les performances d'Hadjar.
Clairement. Et pour Gasly, Seb ?
Il est dans la continuité, hein. Franchement, ouais. Gasly, il est toujours. Tu peux miser sur lui.
Ouais, mais tu vois, avec des scénarios de course qui sont différents. Là, t'es 14e sur la grille, t'arrives quand même à aller chercher des gros points.
Enfin, ah, mais c'est clair.
Et
il va le chercher, tu vois. Il montre à l'équipe qu'il est plus rapide que Colapinto. Il force d'une certaine manière. L'équipe a demandé à Colapinto de se mettre sur le côté pour le doubler. Il va te chercher les points. C'est la force tranquille. C'est le mec sur qui tu peux miser, qui sera toujours là. Il confirme ce qu'on dit depuis très, très, très longtemps sur Pierre Gasly. Et c'est pas parce qu'il est français, c'est qu'il est bon, il est vraiment bon et il mérite d'avoir une bonne voiture et ça fait plaisir de le voir progresser, d'avoir enfin une Alpine qui va dans la bonne direction. Donc ouais, j'ai envie que ça continue comme ça. Ça va être intéressant le duel Racing Bulls Alpine, je pense, jusqu'à la fin de la saison. Mais bravo Pierre, encore une fois, il marque des points, les points, il maximise ce qu'il pouvait faire. Il pouvait pas faire plus.
Ouais. Encore un qui mérite une voiture pour jouer les top teams. Encore un.
C'est clair. Ouais, mais bon, alors là, si tu réfléchis comme ça, malheureusement, les baquets, le nombre de baquets n'est pas extensible.
Il n'y a pas assez de baquets.
Les gars, merci beaucoup. On vous rappelle que vous pouvez suivre également toutes les réactions dans la semaine, toutes les infos qui tombent. Là, sur Radio, ça risque de tomber là dans les jours à venir, par exemple.
Oula,
sur notre page Instagram. Ouais,
t'es optimiste.
Moi, c'est ce que je me dis. Bah, c'est ce qu'ils avaient annoncé la semaine dernière, non? Ils n'avaient pas dit sous dizaines de jours.
Mais ça devait arriver avant le Canada,
c'est
pas,
ce qu'ils avaient dit, donc c'est pour ça que ce ne sera pas le cas.
Bon, en tout cas, si vous voulez savoir si ça a encore du retard, vous abonnez à l'Instagram de KRMC et on vous mettra qu'ils n'ont toujours pas tranché. Voilà, et puis on se retrouve très très vite là pour le Grand Prix d'Autriche dans 15 jours avec le warm-up. Allez, bye bye les amis, ciao.
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 Le paddock RMC.